Moi, j'ai effectivement une interrogation assez forte parce que une des raisons des difficultés, on va dire, est fortement liée à la question du marché du foncier. Mm-hmm. Et finalement, pourquoi on habite loin de là où les ressources accessibles, mm-hmm. on peut avoir l'attachement moyenâgeux qui perdure, d'une mm-hmm. certaine façon, l'attachement à la région, à la village, etc. On voit bien qu'il y a un facteur économique fort.
Oui.
Souvent, pourquoi l'entreprise vous pensez que se délocalise parce que c'est moins cher. Mais on voit bien qu'on a toute une problématique, ça crée une externalité négative. Parce qu'à partir d'un pays urbain, mm-hmm. là où je suis loin, bah, on voit bien le mouvement des gilets jaunes, je suis dépendant, bah, ça contribue à cette dépendance. Et finalement, est-ce qu'il y a des leviers pour que, finalement, dans la politique d'aménagement du territoire, bah, on essaie de réinternaliser une partie des coûts sociaux inhérents aux besoins d'infrastructures, comme on disait, mm-hmm. etc., pour avoir un prix qui par rapport à ce lien de capacité, bah, fasse que les gens qui partent soient les gens qui sont capables d'assumer, mm-hmm. et non pas dans une logique court terme, où je m'y vais, ou un truc je ne peux pas assumer.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Derrière, il y a la question foncière, mais aussi la question des politiques de logement. Depuis la fin des années 70 en France, on est dans une politique d'accession à la propriété individuelle. Hein. On est un des pays européens les plus volontaristes de ce point de vue-là. Et notamment, l'aide à la personne qui est prêt à taux zéro, par exemple, hein, c'est bien l'idée qu'on souhaite que les gens soient capables d'abord de posséder leur logement. Et l'autre chose qui est extrêmement importante en termes de dynamique sociale derrière tout ça, c'est que la propriété individuelle, et notamment la propriété de son logement, dans le contexte de la précarisation de l'emploi, est devenue une garantie sociale majeure et première par rapport à la situation d'avoir un emploi qui était, disons, un emploi pérenne, hein, qui était... La garantie sociale, on va dire, qui était importante dans les années 70. Donc en fait, il y a tout un ensemble de dynamiques sociales derrière ça. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites qu'il y a la question du foncier. Mais il y a beaucoup plus que ça, en réalité. Il y a des choses. Et c'est pour ça que quand on a une vision de la périurbanisation, on se dit, c'est avant tout le fait de pouvoir aller plus vite, donc plus loin, qui est à l'origine. Non, il y a tout un tas d'autres politiques sociales qui contribuent à ce mouvement-là et qui contribuent à la fabrication des inégalités. Hein, parce que le tri social opéré par l'espace aujourd'hui, notamment en termes de politique de logement, est absolument majeur. Et je dirais que c'est peut-être le problème numéro un par rapport à la question du droit à la mobilité qu'on doit se poser. Je reviens toujours à cette question du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez bien que, même si on en sait encore peu de choses, ce sera approfondi plus tard. Il y a beaucoup de personnes qui habitent dans des espaces plutôt peu denses, hein, qui sont très dépendants de l'automobile. Et là, j'ai voulu sortir avec la notion de dépendance à la mobilité le débat de l'opposition qui, à mon avis, n'a pas de sens entre automobile et autre mode, hein, parce que c'est pas ça le problème, même s'il y a des conséquences environnementales extrêmement fortes, ça n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que on voit que derrière ces questions-là, par exemple, derrière le choix d'un mode de transport pour une personne, ce n'est pas la question du prix seulement, hein, ce n'est pas un choix rationnel de court terme, d'ailleurs ce n'est pas un choix qu'on renouvelle tous les jours, donc preuve en est... Voilà. C'est un choix qui engage en fait la vie personnelle, familiale, professionnelle. Il y a des personnes qui font le choix d'être très loin, de se trouver très loin de leur lieu de travail parce que en fait le coût du déménagement est très élevé, soit financièrement, soit dans l'organisation même de la vie familiale, personnelle, etc. Donc en fait, on a ce qui est vraiment important, c'est qu'on a un fonctionnement totalement systémique de ces questions-là, et que, par exemple, face... Alors moi, une des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est que les questions de transition énergétique et solidaire auxquelles on se trouve confronté aujourd'hui ne peuvent pas séparer d'un côté les enjeux environnementaux et de l'autre les enjeux sociaux, ce qu'on fait depuis toujours, ce qu'on continue de faire. Voilà, on ne peut pas renvoyer dos à dos, évidemment, je pense que tout le monde en est convaincu, mais ces enjeux-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement imbriqués. Et c'est seulement en ayant justement cette vision globale des choses que l'on peut sortir de débats qui sont, disons, un peu, qui tournent en rond, qui nous amènent à des impasses d'opposer strictement la voiture aux autres modes, ou bien de... Voilà. Enfin, en tout cas, je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça.
Véronique Cachet de la mission interministérielle pour le contrôle de la sanction automatisée sur les voies réservées au DFE, le GPM. Je voulais intervenir, d'abord je voulais vous remercier pour cette intervention extrêmement passionnante et intéressante. Je voulais juste effectivement peut-être poser une question par rapport à la période dans laquelle on est en ce moment avec les grèves et ce que vous disiez sur l'injonction sociale, la mobilité. Finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ceux qui font partie des CSP++ peuvent éventuellement s'arranger, télétravailler, etc. etc. Et finalement, ne subissent pas cette injonction sociale à la mobilité jusqu'au bout, puisque, voilà, ils décident... Et quand on voit les scènes de cohue, voire enfin, de mouvements de foule inquiétants à la gare du Nord, on voit bien que ce sont des personnes qui sont... embarqués dans cette injonction à la mobilité, en fait, on leur a dit vous pouvez vous déplacer, et finalement cette injonction à la mobilité ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles se réalise cette mobilité, à savoir les horaires, la durée des déplacements, les conditions de confort, etc. etc. Et effectivement, il y a beaucoup de travail dans le domaine de l'économie des transports. Notamment pour prendre en compte en fait tous ces éléments externalités négatives et positives. Un trajet en voiture d'une heure n'est pas la même chose qu'un trajet d'une heure dans un RER B bondé à l'heure de pointe. Et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de prise en compte autour de ce calcul-là.
Bonjour, Emmanuel Bois de la Caisse des Dépôts. Vous mentionniez donc en effet l'objectif initial qui était de désenclaver, de travailler sur le pays des transports. Vous concluez, merci beaucoup pour votre intervention d'abord, vous concluez sur le fait que l'important c'est l'accès aux productivités, etc. Mais en fait il me semble que les deux ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité statique, que du coup le transport peut avoir une incidence notamment sur la répartition des activités et des ressources. Et notamment, j'avais lu un article sur la Courneuve qui, je ne sais pas si c'est une thèse qui se défend, mais qui disait que finalement, il était indispensable de prolonger la ligne 7 pour désenclaver la Courneuve, notamment en termes d'accès à l'emploi, mais que ça avait fini de faire la Courneuve un désemploi, sans commerce d'activité, sans rien. Donc finalement, est-ce que parfois le transport ne peut pas contribuer même à renforcer les flots d'attractivité et à vider et à sécher
les... Tout à fait. En fait, par exemple, vous avez absolument raison, les transports, ça permet de... Enfin, on les vend, entre guillemets, politiquement, en termes d'attractivité, mais ça permet aussi l'inverse. Quand vous avez des dynamiques de périurbanisation, on a tous en tête des dynamiques de périurbanisation qui sont liées au fait d'aller s'installer plus loin du centre et notamment les populations modestes, mais l'inverse existe, un peu américaine si je peux dire, quand on a des situations de centres urbains très dégradés, ce sont les populations au contraire les plus solvables qui vont s'installer en périphérie. Et là on est dans des visions complètement différentes, c'est-à-dire le transport leur permet de fuir finalement le centre qui devient moins attractif. Donc cette ambivalence, elle existe absolument. Quand, par exemple, on entend les discours sur le Grand Paris Express aujourd'hui, on nous dit ça va créer tant d'emplois, et puis on nous vend des chiffres de création d'emplois. Il ne faut pas oublier que ces emplois, en fait, ils viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas créés ex nihilo. Ils sont simplement déplacés de zones. Donc on crée, en fait, c'est là que la notion de potentiel et d'opportunité est importante. On crée des différentiels d'opportunité extrêmement importants. Et ce que l'économie des transports n'a pas réussi à faire, mais parce que c'est un problème extrêmement compliqué, c'est à pouvoir s'interroger sur l'effet de réorganisation des activités qui sont liées aux infrastructures de transport. Quand on évalue une infra de transport, encore une fois, on raisonne sur des gains de temps, sur une demande constante, enfin, en tout cas qu'on projette, voilà. Mais on ne raisonne absolument pas sur tout ce qui va se passer, évidemment, parce que c'est très difficile à prévoir, sur tout ce qui va se passer en termes de réorganisation spatiale des activités et toutes les externalités dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on croit créer de l'accessibilité, mais à moyen terme, on peut créer effectivement d'autres choses.
En complément en fait de la première question sur justement cette spirale foncière logement qui est à l'œuvre en fait est-ce que pour prendre en compte justement cette approche de l'accessibilité sous un angle systémique, est-ce que vous avez commencé à utiliser des cartes qui peuvent représenter la situation de certaines de ces territoires?
Alors c'est la difficulté des indicateurs d'accessibilité, c'est qu'ils sont très multiples. Hein. Par rapport au gain de temps qui est, on va dire, relativement, enfin, qui permet de se ramener à une seule dimension qui est celle du temps et puis de rentrer dans le calcul d'un TRI. En fait, il faut, pour que ce soit intéressant et pour nourrir un débat public, il faut cartographier, mais faire de multiples cartographies. C'est-à-dire se placer en différents points du réseau, s'interroger sur. On parlait des dimensions multiples de l'accessibilité, s'interroger sur les différenciations entre groupes sociaux, hein, puisque même quand on habite au même endroit d'un réseau, on n'a pas accès de la même manière aux ressources, à la fois en termes d'accès à la mobilité, mais tout simplement en termes d'accès aux opportunités elles-mêmes. Il y a des travaux qui ont été faits par une de nos collègues du laboratoire de l'immobilité et transport il y a quelques années sur l'accès à l'emploi des franciliens, où elle montrait très bien les différences d'accessibilité à l'emploi entre les cadres et puis les employés, notamment les ouvriers. Et ces différences d'accès, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'elles n'étaient pas liées tant aux différences d'accès à la voiture, par exemple, mais à la répartition même des emplois dans l'espace. C'est-à-dire que les emplois des cadres, ils sont beaucoup plus centralisés, donc plus accessibles, puisqu'on est dans des logiques quand même très radiales de desserte, que les emplois des employés, des ouvriers, du service à la personne qui sont complètement dispersés spatialement. Et puis il y a évidemment derrière ça la question du logement qui est absolument centrale.
J'ai encore deux questions, donc trois. Comme Emmanuel et puis Sandra. Non.
J'avais une question sur la culture de l'obésité. Mm-hmm. Et on voit quand même qu'il y a des effets de biais de perception sur quelles mobilités sont accessibles, indépendamment de leur accessibilité physique et de l'accessibilité culturelle, donc j'aurais bien aimé vous entendre un peu là-dessus. J'ai une question sur un sujet dont on n'a pas parlé, c'est du coup c'est le sujet numérique, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement, on ne se déplace plus, on fait venir à soi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à avoir un vrai impact, ou est-ce que c'est juste un phénomène marginal?
Alors, je réponds à la deuxième question d'abord. Faire venir à soi les objets, c'est sûr que c'est un impact majeur. Je pense que dans la session de mars, qui sera consacrée notamment aux mobilités dans les espaces, Laetitia Dablan, qui est spécialiste des questions de transport de marchandises, vous en parlera bien mieux que moi. Mais effectivement, c'est un impact majeur. Elle vous dira à quel point c'est quelque chose qui est en forte augmentation et qu'on invisibilise quand même encore beaucoup dans les bilans de transport. Sur le numérique, on pourrait par exemple s'interroger sur le poids du télétravail dans la capacité à résoudre un certain nombre de problèmes liés à la mobilité. Bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, plus on fait de capacité de connexion à distance, plus on crée des besoins de mobilité en face à face. Bon, ça, c'est des choses qui finalement sont bien enseignées, bien connues. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que le travail ne peut pas résoudre les problèmes auxquels on doit faire face. Alors, sur la culture de mobilité, je veux être sûre d'avoir compris ce à quoi vous pensez, parce que je ne suis pas sûre.
C'est le côté. J'ai accès au transport en commun et à la voiture, mais je n'utilise pas tel ou tel mode de transport.
À cause de l'image.
Parce que culturellement, on ne m'a pas habitué. Je ne sais pas prendre le métro, par exemple, ce qui existe dans certains cas. Et est-ce que ça, c'est des. J'ai pas les codes, j'ai pas le langage qui va avec. Je prends l'exemple du métro, mais en fait, on peut multiplier, notamment sur les nouvelles mobilités, on voit qu'il y a des freins à la première utilisation. parce, parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler.
Alors, moi, je ne suis pas
très... Pour le vélo, il y a des vrais sujets de est-ce que je vais réussir à me garer ou covoiturage, est-ce que je vais réussir à rentrer, qui sont des freins, qui sont des freins culturels, plus que les solutions techniques existantes.
Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise pour parler de ça. Bon, je suppose que ça existe. Et, bon, je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions, donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je pense qu'il y a, au-delà de cette... l'adjectif culturel me semble un peu... peut-être un peu... réducteur, ou... parce qu'il y a d'autres... Disons qu'il y a, ou alors il faut l'élargir à quelque chose d'extrêmement vaste. Derrière les enjeux de mobilité, il y a tout un tas de choses qui se jouent, qui sont en dehors des problèmes techniques d'accès, même des problèmes financiers. Il y a énormément d'autres aspects, vous pouvez bien le mentionner. On est en train de commencer à s'intéresser à ces enjeux-là de manière un peu plus précise. Alors il y a des effets d'apprentissage, il y a des questions d'apprentissage, etc. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça, il y a le rapport à l'espace public, qui est très différencié selon les catégories sociales. On a des collègues qui ont travaillé par exemple sur la mobilité des adolescents qui habitent dans les quartiers sensibles, qui montrent des choses extrêmement fortes et importantes autour de ces questions de socialisation, qui ne se réduisent pas seulement à effectivement disons des aspects culturels, mais à quelque chose d'extrêmement large et qui a beaucoup trait à la discrimination aussi qu'ils subissent dans l'espace public.
Du coup, Sandra et Philippe,
Si Philippe veut s'exprimer, je vais
laisser. Non, mais.
On est décalé de 10 minutes. Oui, pardon, 14h10. Non, je me disais, pour clarifier un peu les idées, est-ce que au fond, il vous semble que pour intégrer cette approche plus systémique en termes d'accessibilité, il y a des changements dans la conduite des politiques publiques? Et quels seraient les grands axes de ces changements?
Je crois déjà que moi c'est ce que j'ai essayé de développer dans mes travaux. On est lié à la manière de voir ou de penser les choses que l'on a. Une politique publique, c'est plein d'aspects, fondamentaux autour des institutions, de l'organisation, des moyens d'action, du financement, etc. Mais au départ, il y a la manière de se poser ou pas des questions. Donc ça, je réponds pas tellement à la question en disant ça, mais simplement, il me semble, quand je parle d'indicateurs d'accessibilité, je pense que c'est déjà une révolution, ce serait déjà une révolution dans la manière de se poser des questions et d'en débattre, dans des espaces publics. Et donc de faire évoluer les mentalités aussi autour de ces enjeux là. C'est-à-dire que je pense sincèrement que c'est très compliqué quand on travaille notamment dans la sphère des transports, de la mobilité comme on dit maintenant, mais disons dans une approche très sectorielle des choses, d'en sortir. Parce qu'en fait, dès qu'on en sort, dès qu'on fait un pas de côté, on se rend compte que si on n'est plus seulement dans des questions de solutions de transport et de déplacement, on est dans autre chose. Et donc, du coup, ça devient compliqué parce qu'on se dit, je perds pied, moi qui travaille sur les transports et de la santé, qu'est-ce que j'ai encore à apporter? Donc, je pense que on a toute une révolution à faire qui est compliquée, mais qui vient de la manière même, à l'origine, de se poser des questions. Quand on dit, par exemple, on s'émeut des segmentations dans l'action publique entre les secteurs d'action, au sein même des transports, entre transports publics et voitures, etc. Certes, mais en fait, c'est juste une résultante que l'on a de notre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus transversale des enjeux, et ça nécessite de mettre en place des réflexions extrêmement globales, mais qui... Je pense que à la fois ce que je dis aujourd'hui n'est absolument pas novateur, et en même temps, rappelez-vous ce que vous a dit Madame Drac en ouverture de cette session, qu'il n'était pas question de remettre en cause les besoins de mobilité. et la demande. Or, c'est pour ça que j'ai été permis de rappeler qu'en 1992, quand on parlait de mobilité durable, on était bien dans l'idée qu'on devait réduire les besoins de plastique, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Donc on a quand même réévolué dans un... Voilà. Mais ça, ça dit quelque chose de l'idéologie qu'il y a. Donc je réponds pas très bien à la question, mais parce que c'est vaste. Mais on peut y aller par petits bouts, on peut y aller par petites touches. C'est pour ça que moi j'aime bien rentrer par cette question des indicateurs, parce que rien que ça, ça sans doute, ça permettrait de commencer à faire évoluer.
Bon. Bon, moi d'abord j'aurais peu de choses à dire pour compléter ce qu'a dit Caroline excellemment. Simplement, je voudrais dire qu'on peut être dans la typologie qu'elle a faite des mobilités, on pourrait en ajouter deux qui sont plus exceptionnelles. C'est la mobilité religieuse, et avec notamment cette problématique du pèlerinage, qui était très médiévale, mais qui aujourd'hui est très présent avec nos concitoyens de confession musulmane qui ont une obligation religieuse de faire le pèlerinage à la Mecque, et ils sont très nombreux de le faire. Puis il y a un paléo-christianisme qui nous emmène des fois à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais bon, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose qui revient dans l'actualité des mobilités en Europe, c'est la mobilité militaire, hein, avec tout un débat entre la présidence finlandaise actuellement et la Commission, pour savoir combien on va consacrer pour fluidifier les mobilités militaires en cas de mobilisation d'un conflit en Europe centrale ou en Europe de l'Est. Donc ça, c'est fait partie aussi des sujets qu'il faut avoir à l'esprit, même si ça n'est pas notre quotidien, enfin on l'espère. Deuxième remarque que je voulais faire, les segmentations historiques sont nécessaires. Simplement, elles ne sont pas aussi radicales qu'on peut le faire. Quand on regarde, par exemple, tu as parlé d'une société immobile pour le Moyen-Âge, mais quand Pierre Goubert fait sa thèse sur le Beauvaisis au XVIIe, il parle d'une société immobile, encore très fortement. Et si on prend les sociétés rurales, par exemple, comment dirais-je, au Moyen-Orient ou ailleurs, on voit qu'il y a une très grande... Enfin, là, au Moyen-Orient, c'est un mauvais exemple parce que il y a une mobilité militaire qui chasse la stabilité résidentielle. Et puis, il y a aussi, au 19e, à la fois avec une ambiguïté très profonde entre la nécessité de voir des main-d'œuvre ouvrière aller vers les lieux de production et la crainte de voir cette mobilité qui est perçue comme dangereuse. Et on recrée des livrets ouvriers entre 1803 et 1890, pour s'assurer d'un contrôle social de la main-d'œuvre. Ça, c'est des choses qui sont, moi, je crois aussi, très, très intéressantes à regarder. Et puis enfin, sur les politiques d'aménagement du territoire, on voit bien qu'il y a des mouvements ou des tendances qui sont liées à l'organisation de l'économie mondiale. On a une décentralisation industrielle pour rapprocher l'activité des bassins de main-d'œuvre dans les années 60. Dans les années 2000, on commence à dire, attention, on est dans une approche mondialisée de l'économie et il faut avoir des lieux de production qui soient visibles et compétitifs. C'est la politique de la métropolisation, et donc compétitivité des territoires, plus de répartition autoritaire, rendu difficile aussi avec la décentralisation. Puis aujourd'hui, on voit bien que demain, on va aller vers un besoin de sobriété en matière de mobilité. Tu disais, Anne-Marie Drac dit, on ne n'est pas question de restreindre la mobilité. C'est un discours politique, ça, un peu loin. Mais quand on regarde le premier livre blanc de la Commission européenne, il y a cette idée du découplage entre croissance économique et croissance des transports. À l'époque, ça a fait un peu rigoler, mais aujourd'hui, on prend ça beaucoup plus au sérieux. Toutes les tentatives sur l'économie circulaire répondent aussi à ce problème. Et demain, l'exigence climatique peut nous amener à revisiter nos modes d'organisation économique. Puis enfin, pour répondre
à madame qui a parlé, qui a parlé de la question foncière, je crois qu'elle est centrale. Et on voit aujourd'hui ces tentatives qui sont faites par un certain nombre de villes pour créer des offices fonciers solidaires ou sociaux, hein, de manière à découpler la possession, voire d'où le coût d'acquisition du foncier, du coût d'acquisition de l'immobilier. Hein, on achète sur le siècle et on loue un droit d'occupation à celui qui a acheté l'immeuble, hein, de manière à faire baisser la charge foncière des logements. Et ça, c'est pas une idée qui est française, mais c'est une idée qu'on commence à s'approprier.